Vous écoutez, on lit pour vous.
La France forme ses soldats du froid. Un texte de Philippe Teixeira Lessard, paru le 17 mai 2026 dans La Presse. Alors que le Québec finit de ranger ses pelles, des militaires français continuent à s'entraîner pour combattre dans la neige et la glace. Au pied du Mont-Blanc, l'École militaire de haute montagne, EMHM, prépare depuis près d'un siècle des milliers de soldats au théâtre d'opérations hivernaux. Un atout crucial lorsqu'un territoire comme le Groenland se retrouve dans le viseur de Donald Trump. Une quinzaine de chasseurs alpins, c'est ainsi qu'on nomme les troupes de montagne en France, ont d'ailleurs été envoyés sur le territoire autonome danois en janvier, au plus fort de la crise, afin d'y faire de la reconnaissance en vue d'un éventuel déploiement. C'est à l'EMHM que ce type d'expertise est développé et entretenu au sein de l'armée française. C'est la première école militaire de montagne créée au monde en 1932, explique le colonel Gaétan Dubois, chef de corps de l'école, en entrevue avec La Presse. Malgré le printemps arrivé depuis quelques jours, une neige épaisse et floconneuse tombe sur Chamonix. Dès 1932, la montagne, ça voulait dire clairement l'hiver aussi. Ici, les militaires, essentiellement des officiers, viennent acquérir des compétences pratiques qui leur permettront de faire progresser leurs troupes à travers l'hiver. Ski, motoneige, alpinisme, tout y passe. Même, de façon anecdotique, le deltaplane. On leur apprend à gérer un risque opérationnel par rapport au milieu, explique le colonel Gaétan Dubois. Si je dois aller du point A au point B en situation de combat, comment je vais faire pour gérer le risque de chute en crevasse? Gérer le risque d'avalanche? Traverser un glacier? Sur le campus de l'EMHM, des élèves passent avec leur ski, s'engouffrent dans des autocars. Direction la montagne, afin de poursuivre leur formation. Ils gardent près d'eux leurs tartes, les grands bérets souples qui les distinguent des autres militaires dès le premier coup d'œil. Se préparer à toute éventualité. La France se donne la possibilité d'intervenir sans restriction de milieu, explique Gaétan Dubois, ce qui fait que son armée doit se préparer à toute éventualité. Aujourd'hui, on a à peu près, on va dire, 8000 spécialistes de montagne dans les armées françaises, en grande majorité dans les bataillons de chasseurs alpins, tous basés dans les Alpes. Et, contrairement à leurs homologues québécois, une bonne partie de ces soldats n'auront jamais joué dans la neige avant de devoir apprendre à y combattre. Quand j'étais capitaine, j'avais un de mes soldats qui arrivait d'une toute petite île dépendant de la Polynésie, qui n'avait jamais vu de neige de sa vie, raconte le colonel. Eh bien, 3 ou 4 ans après son arrivée, il était chef d'équipe de haute montagne. Donc, il était chef de cordée en hiver comme en été. Et je peux assurer qu'il était capable d'en montrer à plus d'un en ski. Donc, notre modèle de formation, il est pas mal. Des conflits dans les montagnes. Si la guerre en Iran a expulsé le Groenland des manchettes des journaux, Donald Trump n'a pas laissé tomber ses ambitions d'annexion du territoire pour autant. On veut le Groenland. Ils ne veulent pas nous le donner, a-t-il synthétisé début avril devant les caméras, soulignant que cette mésentente était à la source de sa remise en cause de la pertinence de l'OTAN. En janvier, il avait annoncé qu'il s'occuperait du Groenland dans environ 2 mois. Pendant ce temps, des militaires français ont continué à fréquenter l'île. D'abord, dans le cadre d'exercices militaires danois, mais aussi sous l'égide de l'EMHM. En plein hiver, 25 militaires ont progressé pendant plus de 2 semaines en autonomie, dans le nord du Groenland, afin de parfaire leur formation. Il s'agissait de militaires déjà aguerris aux techniques de survie hivernale, dont 10 membres des forces spéciales. Même si la situation semble se calmer sur ce territoire spécifique, les compétences acquises continueront à être pertinentes pour l'armée française. Le colonel Gaétan Dubois souligne que, contrairement aux idées reçues, les conflits armés ne se sont pas limités aux zones quasi désertiques du Moyen-Orient dans les dernières années. On a actuellement des tensions en haute montagne entre l'Inde et le Pakistan. On a eu un affrontement guerrier entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh, qui est une vraie zone montagneuse. Les zones de montagne sont des zones refuge pour des groupes armés, mais qui sont aussi souvent des zones de frontières, donc potentiellement source de tensions, corrige-t-il. Sans compter que le réchauffement climatique engendre aussi une forme de réchauffement stratégique dans l'Arctique. Les possibilités de franchissement, de déplacement et d'accès aux ressources et du coup de compétition pour les ressources dans la zone arctique font qu'il y a un intérêt croissant pour cette zone, ajoute-t-il. C'était « La France forme ses soldats du froid », un texte de Philippe Teixeira-Lessard, paru le 17 mai 2026 dans La Presse.
Alerte rouge pour le recrutement des médecins. Un texte de Louise Leduc paru le 8 mai 2026 dans La Presse. À l'été 2028, un hôpital tout neuf qui aura coûté au moins 2,6 milliards ouvrira à Vaudreuil-Dorion. Mais y aura-t-il des omnipraticiens pour y travailler? Les autorités locales admettent que le recrutement représente un défi, tandis que des médecins et leurs représentants s'inquiètent, d'autant que la médecine familiale perd de son attrait. Dans les autres hôpitaux de la Montérégie, il manque déjà de médecins. On fait déjà appel au processus de dépannage, relève le docteur Marc-André Amiot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, en référence à ces professionnels volants qui se déplacent ponctuellement dans un établissement, généralement en région éloignée. À l'hôpital Anna-Laberge, à Châteauguay, ça va. Mais à l'hôpital du Suroy, à Salaberry de Valleyfield, des médecins dépanneurs sont appelés en renfort depuis quelques années déjà. En 2024, pour éviter des fermetures de lits, un projet pilote a d'ailleurs été mis en place pour que des patients qui y sont hospitalisés puissent être suivis à distance par les professionnels de l'hôpital juif de Montréal. À 2 ans de l'ouverture de l'hôpital de Vaudreuil, il y a alerte rouge, estime le docteur Philippe Smith, chef de la médecine générale du CI3S de la Montérégie-Ouest. Il faut de toute urgence trouver des médecins, sans dégarnir les autres hôpitaux, dit-il. Des démarches sont en cours. Par courriel, le CI3S reconnaît que le recrutement de médecins représente un défi qui fait l'objet d'un travail concerté avec Santé Québec, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, et nos partenaires. Des démarches auprès des universités et des résidents, du recrutement à l'international ainsi que des contacts avec des médecins ayant manifesté leur intérêt sont effectués, a-t-on précisé. Le CI3S dit aussi compter sur l'agrandissement du groupe de médecine de famille universitaire de Vaudreuil pour former davantage de médecins sur place, ce qui contribue à l'attractivité et favorise leur établissement durable dans la région. Phénomène généralisé. Le recrutement difficile n'est pas propre à Vaudreuil. Le docteur Amiot évoque les 300 lits qui viennent d'être annoncés à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne en raison d'une hausse démographique dans ce secteur de Lanaudière. Encore une fois, demande-t-il, où trouver les médecins? Selon des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, en date de février 2026, 1064 médecins ont quitté le système public. Dans les deux tiers des cas, il s'agit de médecins de famille qui sont en majorité partis à la retraite. En Abitibi, dit le docteur Amiot, on me dit que ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de nouveaux médecins, alors que certains sont partis à la retraite. Or, la relève se fait tirer l'oreille. Cette année, note la FMOQ, 554 postes étaient offerts à des étudiants, mais seuls 448 ont trouvé preneur, alors que c'est 99% en spécialité. Car les spécialistes sont mieux payés, bien sûr. Mais il n'y a pas que cela, rétorque le docteur Amiot, qui souligne le dénigrement entendu de la part du gouvernement au cours de la dernière année. Le manque de ressources et les contraintes qui empêchent, par exemple, un jeune médecin de famille d'établir sa pratique dans la région de son choix. Des efforts à faire. Nicolas Dosti, étudiant de 3e année en médecine générale et directeur aux affaires politiques de la Fédération des médecins étudiants du Québec, FMEQ, croit que le contexte politique est l'une des principales raisons pour lesquelles la médecine familiale a été particulièrement boudée cette année. Et non, dit-il, la solution ne serait pas d'accepter moins de spécialistes pour forcer plus de jeunes à opter pour la médecine de famille. Car quand leur premier choix de spécialité leur est refusé, bon nombre de jeunes n'optent pas pour la médecine de famille, préférant passer leur tour dans l'espoir d'être choisis l'année suivante. Mais est-ce seulement la faute du gouvernement, demande-t-on? Le discours de la FMOQ a-t-il pu aussi contribuer à cette impression que la médecine de famille est un enfer à fuir? Nicolas Dosti n'irait pas jusque-là, mais il estime que des efforts doivent être faits pour mieux faire connaître la médecine de famille, qui demeure, selon lui, une belle profession. Malgré la charge administrative, dit-il, la médecine de famille permet, sur le long terme, d'avoir une relation privilégiée avec les patients. C'était « Alerte rouge pour le recrutement de médecins », un texte de Louise Leduc paru le 8 mai 2026 dans la presse.
Mieux comprendre les allergies saisonnières. Un texte commandité paru le 5 mai 2026 dans la presse. Entre la première bouffée d'air printanier et les éternuements qui n'en finissent plus, il se passe beaucoup de choses. La rhinite allergique, ce qu'on appelle souvent les allergies saisonnières ou le rhume des foins, déclenche une réaction en chaîne assez complexe qui mobilise plusieurs composantes du système immunitaire, résume Nirvishi Jahawahir, pharmacienne. Voici ce qui se produit à chaque étape et comment votre pharmacienne ou votre pharmacien peut vous aider à rompre ce cycle. Les allergènes entrent en scène. Tout commence au moment où un allergène saisonnier, le pollen d'un arbre, d'une graminée ou de l'herbe à poux, entre en contact avec le nez, les yeux et ou la gorge. La substance en cause est parfaitement inoffensive pour la plupart des gens. Cependant, chez les personnes allergiques, le système immunitaire ne le voit pas ainsi. Il le cible comme un danger et organise aussitôt sa défense. Cette mécanique est toujours la même, que ce soit déclenchée par le pollen du printemps, les acariens tapis dans les matelas et les oreillers, ou encore les protéines que les chats et les chiens transportent dans leur fourrure et leur salive. Les changements climatiques ont-ils une incidence sur les allergies saisonnières? Oui, le réchauffement climatique est associé à des saisons polliniques plus précoces, plus longues et parfois plus intense, ce qui peut accentuer les symptômes chez les personnes allergiques. Votre système immunitaire sonne l'alerte. Lorsque l'allergène entre dans le nez d'une personne sensibilisée, des cellules spécialisées du système immunitaire, qui sont déjà en état d'alerte depuis la première exposition, libèrent de l'histamine et d'autres substances chimiques qui déclenchent les symptômes classiques, éternuement, démangeaison, écoulement nasal et yeux qui brûlent. Est-ce que les allergies saisonnières, c'est pour la vie? Pas nécessairement. En effet, elles peuvent apparaître et disparaître, s'aggraver ou s'atténuer au cours d'une vie. Certaines personnes peuvent avoir une forte réaction pendant une saison donnée et n'avoir aucun symptôme l'année suivante. Pour celles et ceux qui vivent avec des allergies sévères persistant dans le temps, des traitements de désensibilisation existent pour réduire l'incidence des symptômes sur leur quotidien. Le corps tente de se défendre. En s'emballant, le système immunitaire finit par irriter les tissus qu'il cherche pourtant à protéger. L'histamine fait gonfler les vaisseaux sanguins et les rend plus poreux, ce qui laisse le liquide s'infiltrer dans les tissus voisins. Les terminaisons nerveuses des yeux, du nez et de la gorge sont activées à leur tour et les symptômes s'amplifient : larmoiement, écoulement nasal, éternuement et démangeaisons. Le corps déclenche une série de réflexes défensifs pour chasser ce qu'il perçoit comme un intrus, précise Nirvishi Jawahir, pharmacienne propriétaire affiliée à Jean Coutu. L'inflammation et la congestion s'installent. La réaction se poursuit bien après la première vague de symptômes. D'autres cellules inflammatoires sont mobilisées dans les voies nasales, ce qui entretient l'inflammation. Les tissus gonflent et obstruent partiellement la respiration, d'où la sensation de congestion. Contrairement aux éternuements et aux démangeaisons, qui tendent à s'atténuer une fois l'exposition terminée, la congestion peut durer des heures. Plus la période d'exposition à l'allergène se prolonge, plus la congestion risque de s'aggraver et de devenir incommodante. La congestion nasale est souvent l'un des symptômes les plus tenaces, parce qu'elle est liée à une inflammation qui peut persister longtemps après les réactions initiales. C'est pourquoi l'usage d'une solution saline est utile. Elle permet de rincer les voies nasales, de fluidifier le mucus et de chasser les particules d'allergènes, conseille la pharmacienne Nirvishi Jawahir. Le bon traitement peut interrompre le cycle. Plusieurs médicaments et produits, en vente libre ou sur ordonnance, peuvent aider à gérer les symptômes en intervenant à différentes étapes de la réaction allergique. Les solutions salines aident à éliminer les allergènes présents dans les voies nasales, à fluidifier le mucus et à réduire l'irritation. Les antihistaminiques bloquent l'action de l'histamine, ce qui soulage les éternuements, l'écoulement nasal et les démangeaisons. Toutefois, leur effet sur la congestion nasale s'avère parfois modeste. Les corticostéroïdes nasaux, en vaporisateur, réduisent l'inflammation dans les voies nasales et sont généralement plus efficaces pour maîtriser la congestion. Les décongestionnants nasaux resserrent temporairement les vaisseaux sanguins dans les voies nasales, diminuant ainsi la sensation de congestion. Leur usage doit être de courte durée. Il est recommandé de consulter en pharmacie dès les premiers symptômes afin de mieux contrôler la réaction. Il n'y a pas de recette unique. Le traitement optimal dépend entre autres de la nature et la sévérité des symptômes, de l'état de santé général et des autres médicaments pris sur une base régulière. Votre pharmacienne ou votre pharmacien peut, lors d'une consultation, évaluer vos symptômes, vous recommander ou vous prescrire un traitement adapté à votre état de santé et vous conseiller sur les mesures à adopter pour mieux contrôler vos allergies saisonnières, rappelle la pharmacienne Nirvishi Jawahir. C'était « Mieux comprendre les allergies saisonnières », un texte commandité paru le 5 mai 2026 dans la presse.
Dossier les plaies de pression. Dénoncer pour mieux soigner. Comment porter plainte? Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Que ce soit en raison de services d'aide à domicile fragiles, de soins qui bafouent la dignité humaine ou encore d'une hospitalisation traumatisante dont on ressort plus éprouvé qu'à l'arrivée, il existe dans le réseau de la santé un mécanisme officiel pour faire valoir les droits des usagers. Il s'agit du processus de plainte auprès du commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Entrer dans ce mécanisme peut toutefois s'avérer fastidieux et intimidant. Trouver le courage de porter plainte lorsqu'on dépend encore des soins, entreprendre cette démarche alors que l'événement appartient au passé et que l'on souhaite tourner la page ou encore faire face au fardeau administratif que cela représente, tout cela peut aisément miner notre motivation. Pourtant, des ressources existent pour vous accompagner dans cette démarche. Avant de les présenter, commençons par revoir en quoi consiste exactement le processus de plainte et pourquoi il est important d'en faire usage. Quelles sont les démarches pour porter plainte? Lorsqu'un manquement aux droits d'une personne survient dans le cadre de services offerts par un établissement du réseau public de la santé, qu'il s'agisse d'un CIUS ou d'un CIUS incluant notamment les CLSC, les urgences, les cliniques externes, les centres de réadaptation et les CHSLD, une procédure à deux niveaux est mise à sa disposition. La première instance obligatoire consiste à déposer une plainte auprès du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services. Cette démarche peut se faire en ligne, par écrit ou verbalement. Il est important de rappeler que seule la personne concernée, son représentant légal ou son héritier, peuvent, en vertu de la loi, déposer une plainte. Le commissaire peut recevoir une plainte à tout moment, que ce soit pendant que les faits se produisent ou après qu'ils soient survenus. Cette instance se veut neutre et impartiale. Une fois la plainte déposée, un processus d'examen s'amorce. Le commissaire mène une enquête auprès de toutes les parties concernées. Les conclusions de cette enquête, accompagnées des solutions proposées pour résoudre le problème ou des mesures correctives recommandées à l'établissement, sont ensuite transmises à la personne dans un délai de 45 jours. Recours possible auprès du protecteur du citoyen. En cas d'insatisfaction à la suite des conclusions du commissaire aux plaintes, par exemple, si la décision n'est pas favorable, si elle comporte des erreurs, si les mesures proposées ne répondent pas aux atteintes ou encore si le délai de 45 jours s'est écoulé sans réponse, un recours d'appel s'offre au plaignant auprès du protecteur du citoyen. Cet organisme public permet également le dépôt de signalement par toute personne, groupe ou association, sans obligation préalable de passer par le commissaire local. Toutefois, contrairement au processus du commissariat, un délai maximal de 2 ans est prévu pour formuler une plainte auprès du protecteur du citoyen, à défaut de quoi le recours est perdu. Dans les 2 jours ouvrables suivants, le dépôt de la plainte, le protecteur du citoyen communique avec le plaignant par téléphone afin de bien comprendre la situation. Une première analyse est alors effectuée pour déterminer si la plainte peut être prise en charge. Dans l'affirmative, un agent appelé « délégué » amorce l'enquête. À l'issue de celle-ci, le délégué informe le plaignant de ses conclusions. Soit il estime que les services de santé ou les services sociaux reçus étaient adéquats et qu'aucune mesure ne doit être recommandée à l'établissement, soit il juge nécessaire de formuler des recommandations. Le protecteur du citoyen a ensuite l'obligation d'assurer un suivi afin d'évaluer la mise en œuvre de ses recommandations. Grâce à son rôle de médiateur et à son statut d'organisme indépendant et impartial, le protecteur du citoyen est en mesure de formuler des recommandations qui sont respectées dans la grande majorité des cas. Porter plainte est primordial. Porter plainte lorsqu'un manquement qualitatif ou quantitatif en matière de soins survient est primordial. Cette démarche permet de consigner officiellement ces manquements, de les rendre traçables et documentés. Elle peut mener à des améliorations concrètes dans les services que vous recevrez à l'avenir et, dans certains cas, à des changements systémiques à plus grande échelle, que ce soit au sein d'un établissement du réseau de la santé ou dans l'ensemble d'une région. Les plaintes jouent également un rôle essentiel de visibilité. Elles permettent de faire reconnaître les manquements vécus par les usagers. Elles constituent des outils indispensables pour les institutions gouvernementales et paragouvernementales, comme le commissaire aux plaintes et à la qualité des services à l'échelle nationale, afin de quantifier et de qualifier les problèmes présents dans le réseau de la santé et d'y réagir de manière éclairée. Des ressources pour vous accompagner. Différentes ressources s'offrent à vous pour vous accompagner dans vos démarches et en faciliter le processus. 1. Le comité des usagers de l'établissement responsable de vos services. Composé majoritairement de bénévoles, ce comité a pour mission d'informer et d'accompagner les usagers, de veiller à ce que toute personne recevant des services de santé soit traitée avec respect et dignité, et d'assurer la reconnaissance et le respect de leurs droits et libertés. 2. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, CAAP, de votre région. Le CAAP est un organisme mandaté par Santé Québec pour assister et accompagner les personnes insatisfaites des services offerts par un établissement du réseau de la santé. Il peut notamment vous aider à bien formuler votre plainte afin d'en maximiser les chances de succès. Les CAAP peuvent également vous soutenir dans la mise en place de mécanismes de protection supplémentaires si vous craignez de subir des représailles à la suite du dépôt de votre plainte. 3. Le Service de défense des droits de Mémo Québec. Mémo Québec offre des services de représentation et d'accompagnement. Nous pouvons vous aider non seulement à déposer une plainte, mais aussi à entrer en contact avec les intervenants du réseau de la santé afin de contribuer à l'amélioration concrète de votre situation. Nous traversons une conjoncture particulièrement difficile, marquée par des défis majeurs et rarement vécus dans le réseau de la santé. Dans ce contexte, les manquements ne doivent ni être banalisés, ni passés sous silence. Porter plainte demeure un geste légitime et nécessaire pour faire respecter les droits des usagers et contribuer à l'amélioration des services, aujourd'hui comme pour l'avenir. Mémo Québec, par sa démarche collective et son mandat d'accompagnement individuel, s'engage à travailler activement au maintien et à l'amélioration de la qualité des services offerts à la population lésée médulaire. C'était « Dénoncer pour mieux soigner. Comment porter plainte? » Un texte d'Annabelle Grenon-Fortin, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paracouable.